Chapitre 2. J'avais l'impression de me balancer à travers l'immensité de l'éther, suivant un rythme puissant et régulier. Des points étincelants paraissaient et s'éteignaient autour de moi. C'étaient, pensais-je, des étoiles, des soleils et des comètes flamboyantes qui peuplaient ma fuite dans le monde astral. Alors que j'atteignais la limite de la trajectoire décrite par mon corps, pour revenir en arrière, un coup de gong résonna. Puis je repris avec délice mon élan en sens inverse, et ce petit jeu continua pendant une période que je ne pouvais évaluer avec exactitude, mais qui me parut être une éternité. Un changement se produisit ensuite dans le cours de mon rêve étrange. Le balancement se fit plus court et sur un rythme accéléré. À peine pouvais-je de temps à autre reprendre haleine, puis j'étais de nouveau violemment projeté à travers les cieux. Le gong aussi retentissait plus furieusement et à intervalles plus rapprochés. Et l'appréhension de chaque coup se faisait chez moi plus douloureuse. Après quoi, mon rêve subit une variation nouvelle et j'eus l'impression d'être traîné sur un sol caillouteux que le soleil avait chauffé à blanc. Ma peau s'écorchait à vif et l'angoisse que j'en ressentais était intolérable. Le gong résonna encore comme un glas lugubre. Les points étincelants reparurent en une avalanche lumineuse, comme si tout le système planétaire s'écroulait dans le vide. Je haletai pour retrouver ma respiration et ouvris les yeux. Deux inconnus étaient à genoux, à mes côtés, et me prodiguaient leurs soins. Le balancement puissant que je subissais était provoqué par le tangage du bateau qui me portait. Quant au gong redouté, c'était tout bonnement une poêle à frire pendue au mur qui résonnait à chaque mouvement du navire. Le sol brûlant et rugueux était la paume rude des mains d'un des deux hommes qui me frictionnait énergiquement sur toutes les coutures. J'avais la poitrine écorchée et rouge, et je pus voir de minuscules gouttelettes de sang qui perlaient sur l'épiderme enflammé.
« Ça va comme ça, Hanson, » dit l'autre homme. « Regarde un peu, tu lui as arraché la peau à force de frotter. »
Le grand gaillard à qui s'adressaient ces paroles avait le type scandinave très prononcé. Il cessa son massage et se leva d'un air gauche. Son camarade était visiblement un homme des faubourgs de Londres qui avait en même temps qu'il buvait le lait de sa mère largement absorbé le son des cloches de Sainte-Marie-le-Beau. Maigre et flanqué, avec des manières efféminées, il était coiffé d'une casquette blanche dégoûtante et ceint d'un tablier de grosse toile non moins repoussant. Accoutrement, qui le désignait clairement comme le maître coq de la plus infecte cuisine qu'il y ait jamais eue sur un bateau. « Alors, comment vous sentez-vous » me demanda-t-il avec ce sourire obséquieux qui lui provenait de plusieurs générations d'ancêtres en quête de pourboire. J'étais encore extrêmement faible, et pour toute réponse, je me mis péniblement sur mon séant. Puis, avec l'aide de Hanson, je parvins à me lever tout à fait. Le tintamarre que faisait la poêle à frire et qui n'arrêtait pas me tapait sur les nerfs. Je n'arrivais pas à rassembler mes esprits. Après m'être cramponné à la boiserie, avec un mouvement de dégoût au contact de la couche de graisse dont elle était imprégnée, j'allais en titubant vers le fourneau qui était tout rouge. Une fois là, j'atteignis de la main l'ustensile, le décrochai et le fourrai bien en sécurité dans le coffre à charbon. Le coq esquissa une grimace devant cette marque de nervosité que je venais de donner, puis me tendit un gobelet fumant en me disant « Buvez, ça vous fera du bien !» C'était un café pour matelot, c'est-à-dire une mixture nauséabonde. Mais sa chaleur me revivifia. Entre deux gorgées,
J'abaissai mes yeux vers ma poitrine tout écorchée, qui continuait à saigner, et m'adressant au Scandinave, « Jansson, lui dis-je, je vous remercie de vos bons soins, mais vous avez, reconnaissez-le, des remèdes plutôt héroïques. » Ému du ton de reproche qui était dans ma voix, Jansson me tendit la paume de sa main en guise d'excuse. Elle était étonnamment calleuse. Je passai la mienne sur ses rugosités qui avaient la dureté de la corne, et j'eus la chair de poule au seul contact de cette terrible râpe. « Je m'appelle Johnson, et non Jansson, observa l'homme. Il s'exprimait en bon anglais, quoiqu'un peu lentement, et avec un imperceptible accent. Dans ses yeux d'un bleu pâle, très doux, je lus une muette protestation contre mes reproches que je regrettais. C'était au demeurant un personnage sympathique, et la franche simplicité de sa réponse m'avait immédiatement conquis. Je lui tendis la main et corrigeai. « Merci, Johnson. » Il parut un peu embarrassé, hésita un instant, en se balançant d'une jambe sur l'autre. Puis finalement, s'empara de ma main, qu'il serra avec cordialité. « N'auriez-vous pas quelques vêtements secs à me prêter ? » demandai-je au cuisinier. « Certainement, répondit-il avec un joyeux empressement. « Je vais descendre dans la cale jeter un coup d'œil sur mon fourniment. Si toutefois vous ne voyez pas d'inconvénient à porter mes frusques. » Il sortit, ou plutôt se coula hors de la cuisine, avec une souplesse qui me frappa. Ses pas étaient comme huilés. Il était tellement imprégné de graisse qu'il glissait plus qu'il ne marchait. Je m'enquis auprès de Johnson, que je pris avec raison pour un des matelots du bord. « Où suis-je ? Quel est ce bateau et où va-t-il ? » Avec un effort manifeste pour me servir son meilleur anglais, Johnson répondit lentement et méthodiquement dans l'ordre aux questions posées. « Au large des Farallon, cap au sud-ouest, goélette le fantôme, armée pour la pêche aux phoques, à destination du Japon. Et qui est le capitaine ? Il est nécessaire que je lui parle dès que j'aurai mis des vêtements secs. » Johnson parut fort perplexe et s'efforça de bâtir, avec les restrictions nécessaires, une réponse à peu près satisfaisante. « Le capitaine, dit-il, est Lou Larsen. Enfin, c'est comme ça qu'on l'appelle ici. Je ne lui connais pas d'autre nom. Mais vous ferez bien de peser vos paroles. Ce matin, il est d'une humeur massacrante. Le second ?» Il n'eut pas le temps d'achever sa phrase, car le coq s'était de nouveau glissé dans la cuisine. « Au lieu de bavarder, Jansson, fit-il, tu ferais mieux d'aller en vitesse voir sur le pont si le vieux n'a pas besoin de toi, avec le caractère qu'il a. » Docilement, Johnson obéit et, tout en se dirigeant vers la porte, me lança un clin d'œil amical et grave, gros d'avertissement, pour me recommander d'être prudent vis-à-vis du terrible capitaine que j'allais bientôt affronter. Le cuisinier portait sur son bras un tas de loques fripées, parfaitement immonde et qui fleurait le moisi. J'ai lavé moi-même ses habits, m'expliqua-t-il, n'ont pas encore eu le temps de s'essorer complètement. Faudra pourtant vous en contenter en attendant que les vôtres sèchent au feu. Toujours titubant, par suite du mouvement du bateau, je m'accotai à la boiserie pour garder mon équilibre, et réussit, grâce à l'aide du coq, à enfiler un tricot de grosse laine. Je frissonnai involontairement à ce rude contact. Le coq remarqua ma grimace et observa avec un sourire affecté. « Je vous souhaite de ne pas être obligé dans votre vie d'emporter souvent de pareils. Votre peau est délicate, comme celle d'une dame. Du premier coup d'œil, j'ai jugé que vous étiez un gentleman. » Cet individu m'avait immédiatement déplu, et pendant qu'il m'aidait à m'habiller, Cette répulsion croissait encore. Son contact avec quelque chose de répugnant. Instinctivement, je m'écartai de lui. C'était plus fort que moi. Les émanations des marmites, placées sur le fourneau et qui cuisaient à gros bouillon, ajoutaient à mes nausées. Aussi comprendra-t-on sans peine la hâte que j'avais de sortir à l'air pur. Il était en outre nécessaire que je voie sans tarder le capitaine afin de m'entendre avec lui sur les mesures à prendre pour me débarquer. Après mille excuses de n'avoir pas mieux à m'offrir et de véhéments commentaires, le coq m'aida à passer par-dessus le tricot une chemise de coton bon marché, au col élimé et dont le plastron était maculé, me sembla-t-il, d'anciennes taches de sang. Des espadrilles me chaussèrent les pieds. Une combinaison de toile bleue, toute déteinte, avec une jambe plus courte que l'autre, de 25 cm au moins, me tint lieu de pantalon. On aurait dit que le diable avait un jour tenté d'agripper par la lame du coq et que le morceau de tissu lui était resté dans les griffes. Une casquette de voyou, un veston de coton rayé, tout crasseux, dont les manches me venaient à peine au coude, complétèrent mon accoutrement. « Et qui dois-je remercier de toutes ces bontés ?» demandai-je. Mon interlocuteur se dressa sur ses ergots avec ce mélange d'insolence servile et d'humilité feinte qui, sur les transatlantiques, est propre aux stewards lorsque la traversée tire à sa fin et qu'ils attendent le pourboire d'usage. « Mugridge, » me répondit le coq d'un ton patelin, un sourire heureux éclairant ses traits efféminés. « Thomas Mugridge, pour vous servir. »« Très bien, Mugridge. Je n'oublierai pas de vous témoigner ma reconnaissance, quand mes vêtements seront secs. » Son visage rayonna, comme si dans les profondeurs de son être, tous ses ancêtres avaient tressailli au souvenir des pourboires passés empochés par eux. « Merci, monsieur, merci mille fois » fit-il en manifestant beaucoup de confusion et de modestie. Je tirai la porte, qui s'ouvrait en arrière, et il s'effaça obséquieusement pour me laisser passer. Je m'avançai sur le pont. Par suite de mon immersion prolongée, j'étais encore très faible. La goélette donnait fortement de la bande et piquait du nez dans la grande houle du Pacifique. Une rafale me fit perdre l'équilibre sur ce plancher mouvant, et je m'en allai rouler jusqu'à un capot, auquel, après m'être relevé, je marqueboutai de mon mieux. Si le navire, comme l'avait dit Johnson, faisait voile vers le sud-ouest, le vent, lui, soufflait du plein sud. Le brouillard s'était dissipé, et le soleil brillait au ciel, reflété par les mille facettes cristallines de la mer. Je tournai immédiatement vers l'est mon regard, car je n'ignorais pas que c'était dans cette direction que se trouvait la Californie. Mais je n'aperçus à l'horizon que des bancs de brume bas. Ce qui, apparemment, avait causé l'engloutissement du Martinez et m'avait amené là où j'étais. Vers le nord, à peu de distance de nous, un groupe de rochers nus émergeait de la mer, et sur l'un d'eux, je distinguais un phare. Je reportai ensuite mon attention sur mon entourage immédiat. Tout d'abord, ce qui excita chez moi la plus vive surprise, ce fut de constater combien on s'occupait peu de quelqu'un qui, tout récemment échappé à une catastrophe, venait de voir la mort de si près. Exception faite de l'homme de bord qui m'examinait curieusement, personne ne me portait le moindre intérêt. On semblait s'occuper beaucoup plus d'un grand diable qui gisait sur le dos, sur le panneau d'une écoutille. Sa chemise était largement ouverte sur sa poitrine. Mais on ne voyait pas la peau, qui était couverte d'une masse de poils noirs assez semblable à la fourrure d'un chien. La figure et le cou disparaissait également sous la broussaille d'une énorme barbe noire, tachetée çà et là de poils gris, et qui, comme tout le corps de l'homme, dégouttait d'eau. Les yeux fermés, l'homme semblait sans connaissance. Il avait la bouche grande ouverte, sa poitrine haletée, et il avait du mal à respirer. D'un mouvement automatique, un matelot prenait de temps à autre un seau de toile pendu au bout d'une corde, le laissait tomber à la mer, puis quand il était plein, le hissait à bord, et pour lui faire reprendre ses esprits, j'imagine, en déversait le contenu sur l'homme prostré. En mâchant furieusement un bout de cigare, l'homme dont le regard m'avait sauvé faisait des 100 pas sur le pont. Il mesurait bien 1,90 m, mais ce qui me frappa surtout, c'était sa vigueur exceptionnelle. Large d'épaule et de poitrine, il ne donnait pas, cependant, une impression massive. Son énorme stature était souple et nerveuse, et il y avait en lui du gorille. Il évoquait par son allure et par son aspect cet homme préhistorique tel que se le forge notre imagination. Ce prototype des races actuelles, issues de lui, qui, comme les singes gîtaient dans les arbres, et qui, dans sa force féroce et farouche, était l'essence même de la vie. Et cette vie semblait aussi tenacement inhérente au personnage que celle qui se manifeste encore dans le corps d'un serpent décapité, ou qui s'attarde dans un morceau informe de chair de tortue que l'on fait se recroqueviller ou frissonner au contact du doigt. Telle était l'impression de puissance produite par l'homme qui arpentait le pont de long en large. Solidement campé sur ses jambes, il frappait le plancher d'un pas sûr. Du balancement de ses épaules jusqu'au pincement des lèvres sur le cigare, il y avait dans le moindre mouvement de ses muscles quelque chose de décisif où se trahissait une force d'indomptable domination. Mais si étonnante que parût cette force tangible, elle semblait en annoncer une autre, une force intérieure, plus formidable encore, qui dormait dans ce colosse et pouvait, à l'occasion, se manifester tout à coup, terrible comme la colère du lion ou le déchaînement de la tempête. Le coq, sur ses entrefaites, passa la tête par la porte de la cuisine. Il me fit un sourire encourageant, en même temps qu'il me désignait du pouce l'homme qui arpentait le pont, afin de m'indiquer que c'était là le capitaine, celui qu'il appelait le vieux, l'être redoutable à qui je devais m'adresser pour obtenir de lui l'autorisation de débarquer à terre. Je pris tout mon courage. Et prêt à affronter l'orage éventuel qui menaçait, j'allais m'avancer quand une suffocation plus violente s'empara du malheureux qui gisait sur le dos. Il se tordait et se tortillait convulsivement. Le menton faisait pointer sa barbe noire vers le ciel et des râles d'agonie soulevaient plus violemment la poitrine. Je savais que sous les poils, la peau prenait une teinte pourpre. Lou Larsen interrompit sa promenade pour venir observer de plus près le moribond. Il le regarda avec attention et fit basculer du pied un seau de toile plein d'eau qui était en réserve posé à côté de l'homme. Celui-ci commença à marteler l'écoutille à coups de talon, raidit ses jambes en un suprême effort et balança sa tête de droite et de gauche. Puis les muscles se relâchèrent. La tête s'arrêta de rouler, la bouche exhala un long soupir qui semblait exprimer une profonde délivrance. Les mâchoires se refermèrent spasmodiquement et la lèvre supérieure se retroussa en découvrant une double rangée de dents jaunies par le tabac. Les traits se figèrent en une sorte de ricanement diabolique qui semblait narguer ce bas monde que l'homme venait de quitter. Et ce fut tout. Alors eut lieu une scène ignoble. Lou Larsen donna libre cours à sa colère, qui, tel un coup de tonnerre, se déchaîna sur le cadavre. Une bordée ininterrompue de jurons sortit de ses lèvres. Et ce n'étaient pas de méchants petits jurons, ni de simples expressions un peu vives. C'était une avalanche de blasphèmes comme je n'en avais encore jamais entendu, percutant, incisif, odieux. Jamais je ne m'étais seulement douté qu'il puisse exister. Et pourtant, en ma qualité d'écrivain, j'avais souvent usé des métaphores. J'en avais cherché et inventé qui m'avaient paru salées. Mais ce n'était rien à côté de ce qu'il m'était donné d'entendre. Autant que je pus le comprendre, Lou Larsen était furieux parce que l'homme qui était son second s'était flanqué à San Francisco avant d'embarquer une telle cuite qu'il en était mort. Or, on était à présent en pleine mer, et le remplacer était impossible. Tous ceux qui me connaissent comprendront à quel point j'étais révolté. Les grossièretés de langage m'ont toujours répugné, et rien qu'à entendre ce que dégoisait Lou Larsen, j'étais malade. Élevé dans le respect de la mort, je l'avais toujours vu entouré d'un pieux et touchant cérémonial. J'ignorais ce qu'était la mort ignoble et dégoûtante. Le torrent brûlant d'injures que la bouche de Lou Larsen vomissait sur ce cadavre aurait dû suffire, semblait-il, à en dessécher la face. Je n'aurais pas été autrement étonné de voir la barbe noire se tortiller comme des copeaux au souffle d'un brasier et prendre feu. Mais le mort restait impassible devant l'insulte. Il continuait à ricaner d'un air cynique et, pour la première fois sans doute, bravait la fureur du maître déchaîné contre lui.